Bien, bonsoir à tous. Donc nous allons commencer cette troisième série de conférences. Nous arrivons finalement au terme de ce cycle dédié au cancer, et plus particulièrement à la recherche sur le cancer. Donc c'est plus l'aspect recherche que vous voyez plutôt que l'aspect médical. Et c'était donc une particularité de ce cycle de conférences que peut-être eh bien, nous recommencerons l'année prochaine. Nous verrons si nous referons cette expérience-là. Alors, ce soir, nous terminons ce cycle après avoir parlé de la cellule cancéreuse, de comment elle est, de ses propriétés, un petit peu de la recherche sur le cancer, de certains aspects historiques de cette recherche. Et bien maintenant, nous allons parler un petit peu des traitements possibles, des traitements peut-être à venir, en tout cas pour lesquels une certaine recherche est réalisée. Et ces présentations seront réalisées d'abord par Sébastien Papeau, qui est maître de conférence au laboratoire de chimie de la faculté des sciences de Poitiers. Et puis ensuite, alors qu'il nous parlera des médicaments intelligents, entre guillemets, pour vaincre le cancer. Et puis ensuite, deuxième présentation de la soirée, réalisée par Jean-Marc Muller, qui est professeur de biologie cellulaire à l'Institut de physiologie et biologie cellulaire de la Faculté des sciences. Voilà, je leur laisse la parole.
Merci, je vais compléter pour commencer la présentation. Donc effectivement, je suis maître de conférence en chimie organique à l'Université de Poitiers et je suis attaché à une unité de recherche mixte CNRS Université de Poitiers qui s'intitule Synthèse et réactivité des substances naturelles, et je participe à des projets de recherche qui tentent en fait d'élaborer des nouveaux concepts pour la chimiothérapie anticancéreuse. Alors je voudrais, avant de débuter cette présentation, commencer par une petite précision au niveau du titre de cette conférence qui n'est pas, comme vous avez pu le voir sur les affiches ou sur les prospectus qui ont été distribués, les médicaments intelligents contre le cancer, mais bien vers des médicaments intelligents entre guillemets pour vaincre le cancer, parce que effectivement aujourd'hui je vais plus parler de molécules qui sont en phase de développement, en phase de recherche, plutôt que de molécules qui sont utilisées aujourd'hui pour lutter contre le cancer. Alors en guise d'introduction, je voudrais rappeler les tristes chiffres concernant la mortalité par cancer fournis par l'Organisation mondiale de la santé. Comme vous pouvez le voir, le cancer a tué 7 500 000 personnes dans le monde en 2005, ce qui constitue 13% des décès globaux. Et les estimations fournies par cette même organisation sont extrêmement pessimistes, avec, comme vous pouvez le voir, 9 millions de décès estimés en 2015 et puis plus de 11 millions à l'horizon 2030. Sur ce graphique, vous pouvez voir les principaux cancers les plus meurtriers, avec évidemment en tête le cancer du poumon qui a fait plus de 1 300 000 morts dans le monde en 2005. Et on sait aujourd'hui que 80 à 90% de la mortalité liée à ce cancer est due à une consommation de tabac. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est finalement pourquoi le cancer est-il une maladie si difficile à traiter ? Eh bien, en fait, sous le terme générique de cancer, on regroupe plus d'une centaine de maladies qui peuvent affecter la plupart des tissus de l'organisme. Et l'un des traits principaux des cellules cancéreuses, c'est qu'elles ont la capacité de proliférer d'une manière extrêmement rapide et d'une manière anarchique en échappant au rétrocontrôle des tissus sains environnants. Et au cours de cette prolifération anarchique, eh bien, les cellules tumorales peuvent acquérir la capacité de quitter le tissu dans lequel elles ont pris naissance pour aller coloniser les tissus sains environnants. C'est ce qu'on appelle la formation de métastases. Et souvent, les métastases ne répondent pas de la même manière au traitement que la tumeur primitive. Et donc, ça en fait donc une maladie à part entière à traiter également. Alors, évidemment, on a aujourd'hui un certain nombre de traitements qui sont plus ou moins efficaces pour lutter contre cette maladie. Mais avant de parler des traitements contre le cancer, je voudrais vous parler des autres moyens dont on dispose ou dont on disposera pour diminuer la mortalité par cancer. Et le premier de ces moyens, c'est, d'après l'Organisation mondiale de la santé, un système de prévention efficace qui pourrait permettre de réduire d'un tiers la mortalité liée au cancer. Alors qu'est-ce qu'on appelle un moyen de prévention efficace? Ben, tout d'abord, c'est un changement du mode de vie en diminuant par exemple la consommation de tabac ou la consommation d'alcool, une modification des pratiques alimentaires en introduisant d'une manière quotidienne des fruits et des légumes et en diminuant l'apport protéique par la viande, et puis également la pratique d'exercice d'une manière régulière. La vaccination est aussi un moyen extrêmement intéressant pour prévenir le cancer, et un exemple récent de vaccin qui a été commercialisé, extrêmement intéressant, extrêmement efficace contre l'infection du virus du papillome humain responsable de nombreux cancers de l'utérus. Éliminer les risques professionnels comme par exemple une exposition trop importante à l'amiante qui est responsable de nombreux cancers comme par exemple les cancers de la plèvre, et puis une réduction de l'exposition à la lumière solaire qui est responsable, on le sait aujourd'hui, de la majorité des mélanomes. Une autre façon, d'après l'Organisation mondiale de la santé, qui pourrait être efficace afin de lutter contre cette maladie, c'est un système efficace de dépistage précoce. Alors premièrement, grâce à un programme d'éducation individuelle permettant à chacun de repérer les premiers signes de cancer, comme par exemple des grosseurs, des lésions, des indigestions ou des toux persistantes, ou encore des saignements par un orifice corporel, et d'aller directement voir son médecin. Et puis, une autre façon, en fait, ce serait de développer des systèmes de dépistage systématique avant que les signes de la maladie n'apparaissent. Et ça, par exemple, ces dépistages systématiques, c'est des choses dont on dispose pour lutter contre le cancer du sein, par exemple, avec la mammographie, ou encore pour lutter contre le cancer de l'utérus avec des examens, pardonnez-moi, cytologiques. Alors, évidemment, à côté de ça, on dispose aujourd'hui d'un arsenal thérapeutique varié pour lutter contre cette maladie. Et les traitements classiques contre le cancer ont trois objectifs principaux. Le premier, évidemment, c'est de guérir le patient atteint de cette maladie. Mais, vous le savez, dans certains cas, la guérison n'est pas possible. Et donc, les traitements peuvent aussi permettre d'améliorer la qualité et la durée de la vie des patients atteints par une forme de cancer. Il y a trois types de traitements principaux qui permettent aujourd'hui de lutter contre cette maladie, qui sont la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie. Et puis des traitements un peu plus particuliers, comme par exemple l'hormonothérapie, qui permet de lutter contre les cancers hormonodépendants, comme par exemple les cancers du sein, de l'ovaire ou du testicule. L'immunothérapie, qui est un moyen extrêmement intéressant, mais qui est encore à ses débuts, et puis les soins palliatifs, qui sont des traitements qui permettent de lutter contre les douleurs psychologiques et physiques qui sont toujours associées en fait au traitement d'un type de cancer. Alors, parmi les trois traitements les plus répandus, que sont la chimiothérapie, la radiothérapie et la chirurgie, la chirurgie et la radiothérapie permettent de traiter des cancers localisés, alors que la chimiothérapie a un champ d'action beaucoup plus vaste, puisqu'elle permet également de traiter ce que l'on appelle des tumeurs circulantes, comme par exemple les lymphomes et les leucémies. Par définition, la chimiothérapie anticancéreuse est un traitement qui consiste en l'administration de molécules, qu'on appelle aussi des drogues ou des agents cytotoxiques, qui agissent sur les cellules cancéreuses pour les détruire. Schématiquement, vous voyez, j'ai représenté ici en violet une cellule cancéreuse. Et une cellule cancéreuse, c'est une cellule vivante parce qu'elle présente trois caractéristiques qui sont essentiellement associées à la vie. Une cellule cancéreuse est premièrement capable de s'auto-reproduire grâce au noyau et au chromosome constitué de la molécule d'ADN qui se situe dans ce noyau. La cellule cancéreuse est également compartimentée grâce à une membrane cellulaire qui permet de séparer les constituants cellulaires de l'environnement extérieur. Et puis aussi, il y a le métabolisme qui est essentiellement associé aux organismes vivants, qui est représenté par cette petite usine chimique. En fait, d'une manière très schématique, le métabolisme, c'est la transformation des substances extérieures en énergie ou en matière première pour la survie de la cellule cancéreuse. Alors, pour détruire une cellule cancéreuse, eh bien, il faut agir au moins sur l'une de ces trois caractéristiques. Et au cours des 60 dernières années, les médicaments qui ont été développés pour traiter le cancer ont agi majoritairement, presque essentiellement, sur l'autoreproduction en fait, des cellules tumorales. Pourquoi ? Eh bien parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, les cellules tumorales ont la capacité en fait, de se développer très rapidement, ce qui permet de les différencier en fait, des cellules saines. Alors ici, voilà, j'ai représenté l'essentiel de l'arsenal thérapeutique qui est utilisé encore aujourd'hui pour lutter contre le cancer avec, vous voyez ici sur cette fresque, l'ordre approximatif d'apparition des différentes molécules. J'en ai représenté deux ici et c'est promis, c'est les deux seules molécules qu'il y a dans cette présentation. La première molécule qui a été utilisée pour lutter contre le cancer, la méchlorethylamine, qui a été découverte au début des années 40, et assez bizarrement, c'est une molécule qui dérive en fait d'un gaz de combat qui est le gaz moutarde. Et en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette molécule fait partie d'une famille de composés qu'on appelle les moutardes à l'azote. Et puis là, c'est la dernière molécule qui a été mise sur le marché en 2006. Plus connu sous le nom de SAA et qui a été commercialisé sous le nom de Zolinza. Alors, simplement pour le détail, vous voyez ici dans les représentations de ces molécules, les sphères représentent des atomes et les tiges entre les sphères représentent des liaisons qu'il y a entre les atomes. Chaque couleur est significative d'un atome particulier. Donc vous voyez en blanc ici, ce sont des atomes d'hydrogène, en gris des atomes de carbone, en bleu des atomes d'azote, en vert des atomes de chlore, et puis ici en rouge, ce sont des atomes d'oxygène. Et en fait, une molécule, c'est une architecture tridimensionnelle, et cette architecture tridimensionnelle particulière à chacune des molécules lui confère des propriétés physico-chimiques particulières. Et lorsque ces molécules particulières avec des propriétés physico-chimiques particulières vont interagir avec des organismes biologiques, eh bien, il va y avoir des propriétés biologiques particulières, comme par exemple une activité anticancéreuse. Alors, évidemment, quand on voit la quantité de molécules qui ont été développées pour lutter contre le cancer, bien, on se doute bien qu'il y a eu des progrès qui ont été faits dans le cadre du traitement de cette maladie. Et une molécule qui est particulièrement intéressante, c'est le Glivec, vous voyez ici, qui a été commercialisé en 2003 et qui permet aujourd'hui de lutter d'une manière très efficace contre la leucémie myéloïde chronique, alors qu'auparavant, l'arsenal thérapeutique ne fournissait qu'une efficacité thérapeutique modérée. Pourtant, aujourd'hui, la chimiothérapie anticancéreuse souffre encore de nombreux problèmes et la preuve en est que des médicaments qui ont été découverts dans les années 40, comme par exemple la méchlorethylamine ou par exemple le méthotrexate qui a été synthétisé en 1946, ou encore la doxorubicine qui a été découverte à la fin des années 60, sont encore utilisés aujourd'hui pour lutter contre le cancer. Et en fait, c'est assez bizarre que ces médicaments anciens soient encore utilisés aujourd'hui quand on sait en fait que le problème majeur de la chimiothérapie anticancéreuse, c'est justement le manque de sélectivité de ces médicaments qui sont utilisés et qui engendrent, à côté de leur efficacité thérapeutique, de nombreux effets secondaires. Alors, dans les effets secondaires, on peut trouver des effets secondaires qui sont communs à presque tous les agents anticancéreux, par exemple la toxicité hématologique, les nausées et les vomissements, la chute des cheveux ou encore des effets sur le cycle menstruel ou la fertilité. Et pourquoi est-ce que la majorité des agents anticancéreux ont ce type d'effets secondaires ? Eh bien, parce que il est vrai que les cellules tumorales se développent d'une manière rapide, s'auto-reproduisent d'une manière rapide, mais vous avez aussi dans votre organisme des cellules saines qui se reproduisent à une vitesse supérieure par rapport aux autres types de cellules. Et par exemple, c'est le cas des cellules de la moelle osseuse, c'est le cas des cellules du tube digestif, des bulbes pileux ou encore des gamètes. Et on comprend pourquoi tous les agents anticancéreux qui agissent justement sur ce processus d'autoreproduction eh bien, présentent des effets secondaires communs parce qu'ils détruisent les cellules qui sont impliquées dans ces processus. Et puis, à côté de ces effets secondaires communs à tous les agents anticancéreux, on trouve également des effets secondaires qui sont particuliers à chaque classe de famille d'anticancéreux, avec des effets secondaires qui sont plus ou moins gênants, voire même extrêmement dangereux, comme par exemple la cardiotoxicité engendrée par le traitement avec des anthracyclines, comme par exemple l'épirubicine, la donorubicine ou encore la doxorubicine. Alors, finalement, la question qu'on peut se poser, c'est comment se fait-il qu'en 60 ans, on n'ait pas été capable de découvrir un médicament qui permette de soigner les cancers sans engendrer d'effets secondaires. Mais regardez, j'ai représenté ici une cellule cancéreuse en violet, et puis schématiquement bien sûr, hein, et puis une cellule saine en vert. Et comme vous pouvez le voir, en fait, une cellule saine, c'est aussi une cellule vivante qui présente les trois caractéristiques des organismes vivants, c'est-à-dire un noyau qui permet une autoreproduction, une membrane cellulaire en vert ici qui permet la compartimentation, et puis aussi des usines chimiques qui permettent l'activité métabolique. Alors pour nous, qui sommes des êtres humains doués d'intelligence, eh bien, on voit bien qu'il y a une différence, même au niveau du schéma, entre les cellules saines et les cellules cancéreuses. Il y en a une qui est violette et l'autre qui est verte. Cependant, pour une molécule qui est quand même quelque chose de, vous avez vu tout à l'heure au niveau de la structure, qui présente une faible complexité, eh bien, ces molécules ne sont pas capables de faire la différence entre les cellules tumorales et les cellules saines. Quand un agent anticancéreux détruit une cellule cancéreuse, eh bien, il y a un effet thérapeutique. En revanche, quand cet agent anticancéreux qui n'est pas capable de faire la différence entre les cellules tumorales et les cellules saines, encore une fois, détruit une cellule saine, eh bien, à ce moment-là, ça génère des effets secondaires. Et donc, vous le voyez bien, en fait, pour augmenter l'efficacité de la chimiothérapie anticancéreuse, il faut augmenter le poids des effets thérapeutiques tout en diminuant le poids des effets secondaires. Et donc, pour augmenter l'efficacité de la chimiothérapie anticancéreuse, il faut augmenter la sélectivité des médicaments qu'on utilise pour lutter contre cette maladie. Alors, aujourd'hui, quelles sont les pistes qu'on a pour augmenter la sélectivité des médicaments anticancéreux ? La première piste, c'est la chance. En fait, découvrir par hasard une molécule ayant une activité plus sélective. Il y a des entreprises pharmaceutiques qui s'occupent de tester un grand nombre de molécules comme ça, et puis ils auront peut-être la chance un jour de tomber sur une molécule ayant une activité plus sélective. Il ne faut pas négliger cette piste. La deuxième piste, c'est des réponses qui seront apportées par les chercheurs en biologie qui mettront en évidence des facteurs essentiellement ou majoritairement associés à la malignité. Et puis la troisième piste, afin d'aller vers une chimiothérapie sélective, et c'est plutôt de ça que je vais parler, dont je vais parler aujourd'hui, c'est des molécules apportées par les chimistes qui fonctionneront, qui se comporteront d'une manière sélective. Et c'est aujourd'hui ce que les chimistes, nous, on appelle des médicaments intelligents, entre guillemets, bien sûr, pour vaincre le cancer. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait que cette molécule ait comme propriété pour qu'on puisse considérer que ce soit un médicament intelligent ? Eh bien, dans un premier temps, il faudrait que cette molécule soit inoffensive vis-à-vis des tissus sains. Et donc pour ça, il faudrait que d'une manière autonome, elle soit capable de différencier les tissus sains des tumeurs. Il faudrait aussi que cette molécule soit capable de chercher toute seule et de détecter les tumeurs. Et puis, une fois que les tumeurs ont été détectées, il faudrait que cette molécule soit capable de les détruire. Et également, pourquoi pas, être capable de signaler aux autres molécules qui se baladent un peu partout dans l'organisme, signaler que la zone à traiter est ici et pas là où elles sont. Alors, avant d'exposer brièvement quelques résultats en fait, de recherches qui sont réalisées aujourd'hui dans ce domaine, je voudrais simplement vous donner une petite idée du temps et des obstacles qu'il y a pour qu'une molécule passe du stade de molécule au stade de médicament. Alors, quand on découvre une nouvelle molécule et qu'on veut que ce soit un nouvel agent anticancéreux, la première étape, c'est de tester l'activité cytotoxique de cette molécule sur des lignées cellulaires. C'est ce qu'on appelle les tests in vitro. Alors, on prend cette molécule, on la met en présence de cellules cancéreuses dans des boîtes de pétri, et puis on regarde l'efficacité thérapeutique, c'est-à-dire est-ce que cette molécule est capable de tuer les cellules cancéreuses ou pas. Si jamais cette molécule fournit des résultats prometteurs in vitro, eh bien ensuite, cette molécule subit des tests in vivo chez des animaux. Alors, bon, ça peut être différents types d'animaux. Majoritairement, ce sont des souris auxquelles on a implanté des tumeurs humaines. Et puis, on injecte ensuite dans la souris la molécule et on regarde l'évolution en fait, de la taille de la tumeur. Si la taille de la tumeur diminue, alors... sans tuer la souris, bien sûr. Alors, il y a une activité anticancéreuse. Et puis, si la tumeur ne diminue pas ou si la molécule tue directement la souris, eh bien, les essais avec cette molécule sont abandonnés. Si jamais une molécule a passé tous ses tests, eh bien, la molécule entre ensuite en essai clinique chez l'homme. Et au cours des essais cliniques chez l'homme, il y a quatre phases. La première phase sert à savoir si la molécule est bien supportée par l'homme. La deuxième phase, c'est la phase 2, c'est de savoir si cette molécule, quels sont les bons et les mauvais effets de cette molécule. En phase 3, on vérifie que cette molécule est vraiment efficace en comparant l'efficacité de cette molécule au traitement qui existe déjà. Et en fait, la phase 4, c'est la phase de pharmacovigilance, qui est une phase qui intervient après la commercialisation du médicament afin de savoir quels sont les effets indésirables de ce médicament à plus ou moyen terme. Pour un agent anticancéreux, en moyenne, de la découverte de la molécule jusqu'au médicament, il se passe à peu près 2 à 15 ans. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce chemin est semé d'embûches, pardon, puisque on estime que pour 100 000 candidats pour être un agent anticancéreux, il y a une seule de ces molécules qui va devenir un médicament. Donc voilà. Les diapositives qui suivent, en fait, ont trait aux recherches qui sont menées dans le domaine de la découverte de médicaments intelligents, entre guillemets. Et à chaque fois, j'ai indiqué à quel stade de développement sont ces médicaments pour que vous puissiez avoir une idée du temps qui reste et des obstacles qui restent à franchir avant que ces molécules puissent être commercialisées et être utilisées en chimiothérapie anticancéreuse. Bon. Voilà le principe, en fait, le principe général pour qu'on puisse parler de médicaments intelligents. Tous ces principes sont regroupés sous une appellation qu'on appelle le ciblage thérapeutique. Et voilà grosso modo comment ça se passe. On prend une molécule, un agent cytotoxique qui est utilisé cliniquement, donc qui a une activité anticancéreuse reconnue. Et le chimiste est capable de faire une modification chimique réversible de cette molécule pour conduire à un agent non toxique qu'on appelle au sens large une prodrogue. Donc en bleu, c'est la prodrogue qui est la modification chimique d'un agent cytotoxique. Et grâce à cette modification chimique, on l'a rendu non toxique. Et puis, cette molécule est capable de régénérer, je passe devant l'écran, est capable de régénérer l'activité cytotoxique de l'agent anticancéreux initial grâce à un catalyseur. Alors ça peut être un catalyseur chimique ou un catalyseur biologique comme une enzyme par exemple, grâce à un catalyseur qui saurait localiser sélectivement au niveau de la masse tumorale. Si on regarde ce processus à plus grande échelle et si on compare ce processus avec une chimiothérapie classique. Au cours d'une chimiothérapie classique, en fait, on introduit directement l'agent cytotoxique dans l'organisme. Dans ce cas-là, l'agent cytotoxique est réparti d'une manière stochastique, c'est-à-dire qui ressemble au hasard dans tout l'organisme. Et on voit bien que lorsque cet agent cytotoxique est localisé au niveau de la tumeur représentée en violet, eh bien, il y a une activité, une efficacité thérapeutique. Par contre, l'agent cytotoxique qui est localisé dans les tissus sains environnants va avoir des effets secondaires. En revanche, quand on pratique une chimiothérapie ciblée, à ce moment-là, ce n'est pas l'agent cytotoxique, mais sa prodrogue qu'on injecte dans l'organisme. Et je le rappelle, la prodrogue est un agent non toxique. Et bien que celle-ci va être distribuée également d'une manière stochastique dans tout l'organisme, et bien elle n'aura aucune toxicité vis-à-vis des tissus sains, puisque celle-ci n'est pas toxique. En revanche, au contact du catalyseur qui est localisé sélectivement au niveau de la masse tumorale, et bien cette molécule va devenir cytotoxique et va avoir, dans ce cas-là, une activité antitumorale localisée. Alors, vous pouvez voir que, en fait, cette idée de chimiothérapie ciblée permet deux avantages, en fait, comparé à la chimiothérapie classique. Premièrement, c'est la limitation des effets secondaires puisqu'on introduit dans l'organisme une molécule qui n'est pas cytotoxique. Et puis deuxièmement, ça va permettre en fait une accumulation préférentielle de l'agent cytotoxique au niveau de la masse tumorale, et ce qui va permettre une chimiothérapie plus efficace. Alors, dans les diapositives qui suivent, en fait, je vais vous exposer quelques résultats dans quelques domaines de recherche qui ont trait à ce ciblage thérapeutique. Évidemment, quand cette théorie a été exposée, il y a des chercheurs qui ont tenté de trouver en fait des catalyseurs naturellement associés aux tumeurs qui permettraient d'activer des prodrogues sélectivement au niveau de la masse tumorale. Et ces recherches ont permis de mettre en évidence que dans les grosses tumeurs de plus de 2 mm de diamètre, il y avait une enzyme qui avait une activité extracellulaire autour des cellules tumorales et que cette activité enzymatique n'était pas localisée autour des cellules saines. Et donc, des chercheurs ont eu l'idée de synthétiser une prodrogue d'un agent anticancéreux qui est utilisé aujourd'hui cliniquement, qui est la doxorubicine. Et donc, cette prodrogue en bleu, ils l'ont appelée HMR-1826 et ils l'ont comparée chez la souris à l'efficacité thérapeutique de la doxorubicine. Alors, vous voyez ici, c'est les résultats qui ont été obtenus sur quatre types de tumeurs humaines qui ont été implantées chez des souris. On mesure dans ce cas-là l'évolution de la masse tumorale. Et évidemment, moins la masse tumorale grandit, plus l'efficacité thérapeutique est importante. En vert, dans chaque cas, la courbe représente les résultats qui ont été obtenus lorsque la tumeur n'est pas traitée. En rouge, lorsque la tumeur est traitée avec la doxorubicine au cours d'une chimiothérapie classique, et en bleu, lorsque la tumeur est traitée avec une prodrogue, HMR-1826, au cours d'une chimiothérapie ciblée. Et donc, évidemment, plus la courbe est haute, moins l'efficacité thérapeutique est importante. Et vous le voyez, dans chaque cas, la courbe bleue est toujours en dessous de la courbe rouge, ce qui veut dire que l'efficacité thérapeutique obtenue avec la prodrogue au cours de la chimiothérapie ciblée est plus efficace que le traitement qui a été obtenu avec la doxorubicine, qui, je le rappelle, est un anticancéreux qui est utilisé aujourd'hui cliniquement. Et vous voyez que cette efficacité thérapeutique a également été obtenue dans le cadre du traitement d'un cancer du poumon où la doxorubicine n'a aucune efficacité, puisque vous voyez que la courbe sans traitement ou la courbe qui résulte d'un traitement avec la doxorubicine sont exactement similaires. Et les chercheurs ont également obtenu une régression totale et durable d'une tumeur du sein au cours de ces essais, donc in vivo chez la souris, lors de cette chimiothérapie ciblée. Alors, ce médicament est arrivé jusque chez la souris, et le problème, c'est qu'on s'est aperçu que chez l'homme, eh bien, la quantité de bêta-glucuronidase disponible au niveau des tumeurs pour activer des prodrogues était beaucoup plus réduite que chez la souris et que cette quantité-là variait en fonction des types de tumeurs à traiter. Donc, cette stratégie de ciblage thérapeutique de type PMT, qui veut dire prodrogue monothérapie, n'était pas suffisante finalement pour être transposée chez l'homme. Alors, il y a des gens qui ont eu une autre idée, qui se sont dit d'accord, mais est-ce que c'est pas possible d'augmenter d'une manière artificielle la quantité de catalyseurs disponibles au niveau de la tumeur pour obtenir une efficacité thérapeutique chez l'homme? Et ça, c'est un concept qui s'appelle le concept de l'ADEP, qui veut dire en anglais Antibody Directed Enzyme Product Therapy. Et c'est un protocole qui se déroule en deux temps. Alors, dans un premier temps, on injecte dans l'organisme ce qu'on appelle un conjugué enzyme-anticorps, en noir et jaune ici. Qu'est-ce que c'est qu'un conjugué enzyme-anticorps? Eh bien, l'enzyme, c'est le catalyseur qui va permettre d'activer la prodrogue et de régénérer l'activité cytotoxique de la drogue. Et puis l'anticorps, en fait, c'est un élément de reconnaissance qui va permettre d'aller reconnaître sélectivement les antigènes qui se situent à la surface des cellules tumorales. On va obtenir ainsi une sélectivité de fixation et de localisation du catalyseur, puisque en fait, ces antigènes sont localisés sur les cellules tumorales et qu'il y en a peu ou pas au niveau des cellules saines. Et donc, comme ça, on va pouvoir créer une concentration artificielle d'enzymes au niveau de la masse tumorale, alors que cette enzyme ne sera pas localisée au niveau des tissus sains. Et puis, dans un deuxième temps, eh bien, on injecte cette fois-ci la prodrogue, et dans ce cas-là, l'enzyme va être le catalyseur du mécanisme d'activation de la prodrogue en drogue. Et vous voyez que ici, sur ce schéma, on voit que l'agent actif est activé essentiellement au niveau de la masse tumorale et pas du tout au niveau des tissus sains. Alors ça, c'est un protocole qui a été étudié chez l'homme et qui est encore en cours d'étude. Les premiers essais ont été réalisés à Londres. C'est un concept qui a été développé par un chercheur, un médecin qui s'appelle Kenneth Backshaw. Et en fait, les premiers résultats ont été réalisés sur 10 patients atteints d'un cancer colorectal, parce que l'anticorps qui avait été développé était sélectif des antigènes de cancer colorectaux. Et évidemment, un cancer colorectal à un stade avancé, c'est-à-dire que les patients qui ont été traités au cours de ce protocole n'avaient plus d'espoir avec les traitements classiques. Et dans ce cas-là, en fait, eh bien, sur les 10 patients, il y a une réponse partielle qui a été obtenue et en fait 6 stabilisations de la maladie pendant 4 mois. Le problème qui a été rencontré au cours en fait, de ce protocole ADEPT, c'est en fait une réponse immunitaire. L'organisme a reconnu le conjugué enzyme anticorps comme un corps étranger. En fait, il s'est donc défendu contre ce conjugué enzyme anticorps et ça posait beaucoup de problèmes. Il fallait contrarier en fait, cette réponse immune pour obtenir une efficacité thérapeutique supérieure. Alors, ça, c'est un protocole qui est encore en cours d'étude et plusieurs pistes sont aujourd'hui à l'étude. D'abord, utiliser des conjugués enzymes anticorps qui ne généreraient pas des réponses immunes. Et aussi, il y avait un autre problème, c'était la biodisponibilité de la prodrogue qui n'était pas capable suffisamment d'atteindre les sites tumoraux, parce que les sites tumoraux sont des sites peu vascularisés. Et donc, on obtenait une efficacité thérapeutique relative. Je voudrais terminer par une recherche qu'on développe actuellement à l'Université de Poitiers, donc en collaboration avec le professeur Joël Roche, qui a participé au premier cycle de conférences. Alors, on appelle ça un cheval de Troie moléculaire. Alors, pourquoi ? Parce que dans la littérature, on s'aperçoit que les biologistes ont mis en évidence, en fait, des récepteurs membranaires qui se situent spécifiquement au niveau de la membrane des cellules tumorales. C'est-à-dire que, en d'autres termes, il y en a beaucoup sur les membranes des cellules tumorales et il n'y en a pas beaucoup ou pas du tout au niveau des membranes des cellules saines. Et en fait, ces récepteurs membranaires sont comme des gardes-frontières et c'est un peu eux qui décident si les molécules rentrent ou ne rentrent pas. Et les molécules qui rentrent sont des molécules qui ont un passeport pour pouvoir rentrer, un laissez-passer en quelque sorte. Et donc, on s'est dit, on va développer des molécules, des prodrogues, donc en bleu, qui vont présenter 4 parties. C'est-à-dire que vous voyez là, ce que je schématisais par l'étoile bleue, en fait, ça devient cette molécule qui présente 4 parties, avec une gâchette, une unité centrale, une drogue, et justement un passeport qui est capable d'interagir sélectivement avec les récepteurs membranaires qui sont surexprimés par les cellules tumorales. Alors voilà le principe de ce cheval de Troie moléculaire. Cette molécule, bien sûr, est non toxique. Elle est véhiculée dans l'organisme. Et puis, lorsqu'elle rencontre un récepteur membranaire, il va y avoir une interaction sélective au niveau de la zone tumorale entre ces récepteurs et la molécule par l'intermédiaire du passeport représenté ici en jaune. Parce que cette molécule possède le passeport, elle va être autorisée à pénétrer dans la cellule tumorale et à ce moment-là, la gâchette va être activée. L'activation de la gâchette, l'information va être transmise par l'unité centrale, ici, jusqu'à la drogue et va commander l'expulsion de la drogue. Et une fois expulsée, la drogue va retrouver son activité cytotoxique au sein de la cellule tumorale et exclusivement au sein de la cellule tumorale. Alors ça, c'est un concept qu'on a commencé à développer il y a à peu près un an. Et en fait, Voilà les premiers résultats qu'on a obtenus. Alors, on est encore au stade de la cellule. Hein. Donc, bon, vous voyez, si jamais c'est quelque chose qui marche, il y a beaucoup d'obstacles, ça mettra quand même un certain temps avant d'être utilisé comme médicament. Et donc, voilà comment on a réalisé les tests. On a incubé les molécules avec des cellules tumorales et on compte le nombre de cellules mortes. Plus il y a de cellules mortes, évidemment, plus le médicament est efficace. Donc ici, vous avez le nombre de cellules mortes. Ici, c'est l'efficacité qui a été mesurée lorsque les cellules n'ont pas été traitées. Ici, c'est l'efficacité qui a été mesurée avec la drogue, l'anticancéreux seul, hein, qui est utilisé pour traiter le cancer chez l'homme. Ici, vous voyez qu'on a obtenu une efficacité similaire aux marges d'erreur près avec notre cheval de Troie moléculaire. Et on a également testé l'analogue, c'est-à-dire la même molécule ne présentant pas le passeport. Et vous voyez que la molécule qui ne présente pas le passeport ne présente aucune cytotoxicité vis-à-vis du type de cellules qu'on a tenté de traiter, qui sont des cellules d'un cancer du sein de type MCF7. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que avec ce genre de molécule, on pourrait obtenir une sélectivité, une cytotoxicité spécifique des cellules tumorales qui présentent ce type de récepteur membranaire. Alors pour conclure, je dois avoir dépassé. Alors pour conclure sur ce que je viens de dire, eh bien, comme vous le voyez, en fait, les médicaments qui ont été développés depuis à peu près une soixantaine d'années pour lutter contre le cancer, bien c'était des armes de destruction massive qui détruisaient certes les cellules cancéreuses, mais qui détruisaient également les tissus sains, ce qui engendrait de nombreux effets secondaires. La recherche s'oriente aujourd'hui vers des frappes beaucoup plus ciblées avec des médicaments plus sélectifs. Est-ce que c'est le dernier stade de développement des médicaments anticancéreux, c'est-à-dire est-ce que ces frappes ciblées vont suffire pour éradiquer le cancer? J'ai pas la réponse et je pense que personne l'a. Est-ce que finalement il faudra pas aller après-demain vers des nouvelles stratégies où au lieu de détruire les cellules cancéreuses, eh bien il faudrait les réorienter vers une voie de la normalité? Encore une fois, il est difficile de faire des prévisions, surtout en ce qui concerne l'avenir. Toujours est-il que, eh bien, aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent des solutions à ce problème-là. Et finalement, est-ce que ce n'est pas là le meilleur espoir? Je vous remercie de votre attention.
Bon, merci Sébastien donc, de cette belle présentation qui m'est très utile puisque tu as rappelé un certain nombre de choses intéressantes sur le cancer et je n'aurai pas à répéter. Donc moi, eh bien, je vais conclure ce petit cycle de conférences donc, sur le cancer en vous parlant eh bien, de vaccination contre le cancer. Alors est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité ? Eh bien, c'est ce dont on va essayer de disserter un petit peu ensemble ici. Bon, alors d'abord, il faut définir ce qu'est un vaccin. Vous savez tout ce que c'est, mais il faut rappeler très simplement la définition d'un vaccin. C'est tout simplement une substance qui, lorsqu'on va l'introduire dans un organisme, va provoquer une immunité contre une maladie. Ou alors, encore une fois, contre sa récidive. Et ça, c'est important dans les pathologies cancéreuses, puisque souvent, on ne meurt pas du cancer. Enfin, le cancer primaire est souvent traité, et c'est souvent des récidives du cancer qui vont emporter le patient. Donc il est tout aussi important, je dirais, d'empêcher le développement du cancer initial, du cancer primaire, mais également de bloquer la récurrence de la pathologie, les métastases qu'a évoqué tout à l'heure, en particulier Sébastien. Alors qu'est-ce qu'un vaccin antitumoral ? Alors, étant donné ce que je vous ai dit, par conséquent, eh bien, on peut distinguer donc deux types de vaccins antitumoraux. Vous allez voir que les deux types sont effectivement développés, voire dans certains cas, vous allez voir qu'ils sont même déjà commercialisés, comme on va le voir avec les vaccins antiviraux qu'a rapidement évoqué également Sébastien tout à l'heure. Donc pour nuancer un petit peu ce qu'a dit tout à l'heure mon collègue, je dirais que l'immunothérapie anticancéreuse, elle n'en est pas seulement à ses débuts, comme tu disais, mais il y a quelques applications, il n'y en a pas énormément, c'est vrai, hein, donc, mais c'est ce que je vous décrirai un peu plus loin. Donc ces deux types de vaccins, lesquels sont-ils ? Eh bien, ce sont des vaccins dits thérapeutiques, c'est-à-dire qui permettent de traiter un cancer préexistant. Donc c'est un véritable traitement qu'on peut comparer un peu à la chimiothérapie qui a été citée tout à l'heure et qui peut complémenter d'ailleurs les approches qu'a cité Sébastien, la chimiothérapie ou la radiothérapie également. Et ces vaccins thérapeutiques eh bien, peuvent prévenir la récidive en complétant donc les autres types de traitements. De toute façon, le rôle de cette vaccination, c'est de renforcer les défenses naturelles de l'organisme, puisque je vous rappelle que le but de cette vaccination antitumorale, eh bien, c'est de donner à l'organisme les moyens de rejeter lui-même, en quelque sorte, les cellules cancéreuses. Alors, le deuxième type de vaccin, c'est les vaccins qu'on dit prophylactiques, eh bien, comme la grande majorité des vaccins, c'est-à-dire préventifs, c'est-à-dire protéger un sujet sain contre la survenue donc, d'un cancer. Alors, juste pour rappeler un petit peu la petite histoire de l'immunothérapie anticancéreuse, eh bien, on peut dire que c'est une très vieille histoire qui remonte à l'Antiquité, puisqu'on dit que Imhotep, qui cumulait déjà les mandats à l'époque, vous voyez que ce n'est pas quelque chose de moderne, c'est déjà ancien, qui était un grand architecte de Djéser, qui était un grand pharaon aussi d'ailleurs, qui était également ministre de ce pharaon, et également le médecin donc, du pharaon et de sa cour. Et ça se passait donc 2800 ans avant Jésus-Christ. Qu'est-ce que faisait donc Imhotep ? Eh bien, il scarifiait les tumeurs pour qu'elles soient infectées. Il générait donc une inflammation, en quelque sorte, chez le sujet, et il paraît que, c'est ce que disent les hiéroglyphes et les fresques qu'on trouve dans les grands bâtiments égyptiens, donc il paraît qu'il avait eu quelques succès de cette façon. Bon, juste comme ça, pour rappeler quelques étapes intéressantes et même un peu amusantes, vous savez que le saint patron des malades du cancer, c'est saint Pérugin Laziosi, qui était un Italien, qui avait eu eh bien, une rémission spontanée, ce que l'Église appelle un miracle, d'un cancer, d'un sarcome osseux, donc de la jambe, à la suite d'une gangrène, d'une très forte fièvre, eh bien, à la suite de laquelle eh bien, sa tumeur a complètement régressé, donc rémission totale. Donc tout cela pour vous dire que, eh bien, en fait, on sait une chose, c'est que lors d'une infection très importante, il y a deux solutions. Ou le malade en meurt de cette infection, ou alors il survit et ça peut éliminer l'activation du système immunitaire à la suite de la stimulation de l'immunité naturelle peut amener également eh bien, à la régression donc, du cancer et à un état de rémission. Alors, on retient dans l'histoire également le nom de William Colley, que vous voyez sur cette diapositive, qui était un chirurgien et qui a mis au point un mélange qu'on appelle la toxine de Colley, qui est un mélange de bactéries tuées, des bactéries qu'on trouve dans le pus en particulier. Et aujourd'hui, on considère que c'est probablement le premier vaccin officiel contre le cancer. Il avait eu quelques succès avec des sarcomes, William Colley, mais également eh bien, pas mal également de décès de ses patients. Ceci étant dit, en 1999, il y a eu une étude extrêmement sérieuse dans un grand journal du cancer, dans laquelle il a été démontré que les résultats obtenus par William Colley ne sont foncièrement pas plus mauvais que ceux obtenus avec certaines chimiothérapies traditionnelles, telles que celles qui ont été évoquées tout à l'heure. Voilà, tout ça pour vous dire, en fait, vous voyez que si on stimule donc les défenses naturelles du malade, par exemple en infectant le malade ou avec des bactéries tuées, eh bien, on peut induire donc une régression du processus tumoral. Alors aujourd'hui, eh bien, ce processus, ces phénomènes ont une application, puisque le bacille Calmette-Guérin que vous connaissez tous, qui est le BCG, ce vaccin donc, contre le bacille Calmette-Guérin, eh bien, vous le savez que c'est celui contre la tuberculose. Eh bien, ça s'appelle Immucis, c'est une spécialité qui s'appelle Immucis, qui est commercialisée, et elle constitue un traitement non spécifique du cancer localisé, non invasif de la vessie. Et c'est un traitement qui est utilisé couramment pour prévenir les récidives de ces cancers non invasifs de la vessie. Donc vous voyez que le BCG, donc le vaccin BCG qui protège contre la tuberculose, eh bien, protège contre les récidives donc, de cancers comme les cancers de la vessie. Bien pour en arriver à aujourd'hui, et c'est des choses que je vais vous développer par la suite, eh bien, il faut savoir qu'aujourd'hui, eh bien, les anticorps médicaments dirigés contre des composants de la cellule cancéreuse eh bien, sont commercialisés, je vais en parler tout à l'heure, ils complètent efficacement les autres traitements du cancer qu'on a évoqués donc, plus tôt. Alors, il y a deux vaccins anticancéreux prophylactiques, selon la définition que je vous ai donnée tout à l'heure, qui sont disponibles. qui sont commercialisés. Ici, vous avez une image qui vous montre l'un d'entre eux, le garde-asile, que vous commencez à connaître un petit peu maintenant. Hein, c'est très médiatisé, tout ça. Et ils sont dirigés, en fait, ces vaccins contre des virus, le virus HPV, Human Papillomavirus, du papillome humain. Et vous savez que ce virus, eh bien, il cause une forme de cancer du col de l'utérus. La même chose pour le virus de l'hépatite B qui peut causer certains cancers primaires du foie. Donc vous voyez que ces deux vaccins anticancéreux sont prophylactiques, c'est-à-dire qu'ils protègent en fait contre la survenue de ces types de cancers dépendants de virus. Voilà, puis ce que je vous dirais également, c'est qu'aujourd'hui, plusieurs vaccins, plusieurs protocoles de vaccination anticancéreuse thérapeutique ciblant des composants donc, de cellules cancéreuses sont en développement pour plusieurs types de cancers. Je vous ai désigné ici un certain nombre d'équipes qui sont bien connues, qui sont des immunothérapeutes qui développent donc ces protocoles que je vais essayer de vous évoquer tout à l'heure. Voilà, alors il faut quand même, avant d'aller plus loin, il faut quand même se rappeler ce qu'est la réponse immunitaire, en quelques mots. Bon, prenons l'exemple d'un virus qui va infecter donc l'organisme. Eh bien, si l'on injecte par exemple une préparation de virus neutralisé donc dans l'organisme, c'est ce qu'on appelle une vaccination antivirale, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ces virus sont introduits dans l'organisme, bien sûr, ils vont infecter plusieurs types de cellules, mais en particulier des cellules dites sentinelles, qu'on appelle les cellules dendritiques immunitaires. Ces cellules sont capables d'engouffrer, on appelle ça la phagocytose, à peu près tout ce qui traîne et qui est étranger dans l'organisme. Et le virus donc pénètre dans ces cellules, il est digéré par les usines catabolitiques intracellulaires dont on a parlé tout à l'heure. Et ces cellules dendritiques, elles vont réexprimer sur leur surface des fragments de ce virus. Et ces cellules dendritiques, elles vont présenter en fait ces fragments au reste du système immunitaire. Et ça se passe dans les ganglions lymphatiques, qui sont en fait, vous le voyez, le lieu de la réponse immunitaire. Et c'est pour ça que quand on a une infection, ces ganglions enflent. Et vous le savez que le médecin, quand il va palper le patient, va déceler la présence d'un gonflement de ces ganglions, ce qui est un signe d'infection, bien entendu. Alors quelle va être cette réponse en fait à ces antigènes viraux quand ils sont présentés par ces cellules dendritiques qui présentent l'antigène, comme vous le voyez sur ce schéma? Pardon. La réponse est la suivante. En fait, les cellules dendritiques, quand elles vont présenter donc cet antigène, vont activer plusieurs types cellulaires qui sont impliqués dans l'immunité. Je vous demande d'essayer un peu de les retenir parce qu'on va en reparler plus loin. Les premières s'appellent les lymphocytes qu'on appelle CD4, peu importe pour ce numéro matricule. Simplement, ce qu'il faut retenir, c'est que ces cellules CD4 libèrent des facteurs qu'on appelle des cytokines qui vont activer la réponse immunitaire et en particulier qui vont activer deux autres types de lymphocytes, les lymphocytes B qui sont en haut et un autre type de lymphocytes que l'on appelle les lymphocytes CD8. Donc le rôle des premières, c'est de produire ces molécules, des protéines qu'on appelle les cytokines, et qui sont des facteurs de croissance et de stimulation des autres lymphocytes. Les lymphocytes B, quel est leur rôle? C'est de produire des anticorps contre les antigènes du virus là, qui ont infecté l'organisme. Et ces lymphocytes CD8, ici, ceux-là, on les appelle des cellules tueuses, c'est-à-dire qu'elles vont attaquer en fait, les cellules qui sont infectées par le virus ou une cellule tumorale, pour aller les détruire de cette façon. Donc ici, vous avez avec cette image, là, vous avez à peu près l'ensemble, très simplifié, bien sûr, l'ensemble de la réponse immunitaire. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc les lymphocytes B vont produire ces anticorps qui vont donc neutraliser les antigènes donc, au niveau des cellules qui sont infectées, alors que les cellules CD8 donc, vont tuer, bien entendu, l'intrus. Alors, globalement, il faut savoir que la très grande majorité des lymphocytes T et B que je viens de citer, activés, vont mourir rapidement, mais un certain nombre d'entre eux vont subsister dans l'organisme et ils vont donner naissance, comme l'indique ce schéma, à des cellules donc, qu'on appelle des cellules mémoire et qui vont nous protéger en quelque sorte tout au long de notre vie. Ces cellules sont présentes et vont donc pouvoir entrer en action aussitôt qu'on va avoir une récidive de la maladie, de l'infection, etc. Voilà, donc c'est ce que dit également cette diapositive. Les cellules mémoire donc, sont immédiatement réactivées, elles vont se multiplier rapidement et restituer donc, l'immunité initiale très rapidement. Voilà, donc après vous avoir expliqué ce qu'est l'immunité, les anticorps, vous avez vu que j'ai cité tout à l'heure, ces molécules qui sont produites par les lymphocytes B, il faut savoir qu'elles sont aujourd'hui utilisées comme médicaments. Les spécialités que je vous indique ici, l'herceptine, l'herbitux, l'Avastine, eh bien, ce sont des anticorps. Ces anticorps sont dirigés contre des facteurs de croissance des cancers ou leurs récepteurs. Hein. Les deux types d'anticorps sont développés. Il y en a d'autres que ça, hein. C'est pas exhaustif ma liste là, mais c'est juste pour vous donner quelques exemples, pour vous dire que ces anticorps sont de véritables médicaments antitumoraux qui sont commercialisés, qui complètent donc l'action des drogues traditionnelles donc, qu'on vous a déjà citées. Voilà, alors, je vous ai dit, il y a des vaccins antiviraux et antitumoraux hein, qui sont commercialisés, c'est ce que je vais vous dire en quelques mots ici. Eh bien, il existe des vaccins contre des virus qui protègent également contre des tumeurs. Alors, les cancers qui impliquent des virus, c'est une très grande minorité de cancers. Il y a quelques exemples ici, ce n'est pas exhaustif non plus. Et les deux types de vaccins qui sont développés aujourd'hui, enfin plus que développés, qui sont commercialisés aujourd'hui, concernent le cancer donc, du col de l'utérus et certaines formes de cancer du foie. Et il s'agit de vaccins dirigés contre le virus du papillome humain et le virus donc, de l'hépatite B. Hein. Voilà, alors ces vaccins, simplement pour vous parler un peu de leur efficacité, prenons le cas du cancer du col de l'utérus. C'est un cancer assez fréquent en France, puisque 3400 nouveaux cas hein, de cancer du col sont diagnostiqués. C'est un cancer mortel, vous voyez, des centaines de femmes en meurent chaque année. Et cette infection à papillomavirus, c'est le premier stade de la transformation des cellules normales en cellules cancéreuses. Donc ça va enclencher le processus donc, de transformation cancéreuse. Ce vaccin anti-papillomavirus, eh bien, commence à être aujourd'hui largement utilisé, puisque en Europe, plus de 50 000 femmes sont vaccinées tous les ans. Et ce garde-asile, il est préparé à partir de particules virales. Il protège en fait contre 4 types de virus HPV, qui sont les formes 6, 11, 16, 18, sachant qu'il y en a beaucoup plus que ça, hein, des formes de virus HPV, mais celles-là sont celles qui peuvent causer des cancers. Ce vaccin est administré entre l'âge de 13 et 23 ans chez les jeunes femmes, les jeunes filles, donc avant leur premier rapport. Eh bien, les résultats sont les suivants. Ma première chose, c'est un vaccin assez coûteux, hein, 3 injections sur 6 mois à 100 € l'injection. Je crois que c'est remboursé, je pense. Il faudrait le vérifier. Je ne suis pas médecin ni pharmacien, je ne peux pas vous le dire précisément, mais je crois que c'est comme ça. L'efficacité dans ces conditions, dans les conditions que je vous ai décrites, elle est considérée comme pratiquement totale sur les pathologies, donc dépendantes de ces formes de HPV dont je vous ai cité. Alors par contre, attention, ces vaccins ne peuvent pas traiter, ils ne sont pas thérapeutiques, ils ne traitent pas les infections en cours et les lésions à HPV existantes, qu'elles soient précancéreuses donc, ou cancéreuses. Hein. Bon, le problème, Loïc, est que la très grande majorité des cancers ne dépend pas de virus. Alors qu'est-ce qu'il en est de cela? Qu'est-ce qu'on développe? Eh bien, pour essayer de nous protéger contre ces cancers ou contre la récidive de ces cancers. Bien, première chose, il faut savoir que les cellules cancéreuses échappent en grand nombre à l'immunité, aux réponses naturelles de l'organisme. Pourquoi ? Parce que, première chose importante, une tumeur, c'est un système hétérogène, extrêmement versatile, c'est-à-dire qu'au sein de la tumeur, vous avez un mélange de cellules qui ont des propriétés différentes, qui sont plus ou moins résistantes, non seulement aux traitements anticancéreux dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi résistantes, plus ou moins résistantes aux défenses naturelles de l'organisme. Donc vous voyez que en fait il n'y a pas un patient qui ressemble à l'autre, un cancer qui ressemble à un autre, et même au sein du même patient, les tumeurs qui peuvent se développer à différents endroits de l'organisme peuvent avoir des propriétés différentes. C'est ce qui rend complexe en fait la lutte contre les cancers et en particulier bien sûr le développement d'une immunothérapie efficace contre le cancer. Alors autre problème, c'est que les cellules tumorales, n'oubliez pas que ce sont des cellules qui dérivent de notre propre organisme, donc elles ressemblent souvent beaucoup aux cellules normales et leurs antigènes qu'a évoqué tout à l'heure Sébastien pour cibler justement des drogues, des prodrogues et des catalyseurs de prodrogues, eh bien, ces antigènes ne sont pas vraiment étrangers à l'organisme. Donc la réponse immunitaire à ces antigènes, eh bien, elle est relativement faible. Cependant, ce qu'il faut dire en plus, c'est que les cellules tumorales résistantes au système immunitaire, à nos défenses naturelles, eh bien on sait qu'elles produisent, là on connaît un petit peu ces mécanismes, on les connaît même pas mal, elles produisent des molécules qui bloquent la réponse des cellules de l'immunité, en particulier des cellules dendritiques qu'on a vues tout à l'heure, ainsi que des cellules CD8. Ce principe, ce concept, c'est ce qu'on appelle l'anergie, hein, en quelque sorte. Le cancer, eh bien, bloque la réponse immunitaire par le biais de molécules qu'on connaît bien. Et là, il y a un biais intéressant également pour aller, eh bien, justement, empêcher la mise en place de ce principe d'anergie. Il y a également des travaux qui sont faits dans ce sens-là. Bon, cependant, il faut reconnaître que nos défenses naturelles éliminent donc des cellules tumorales qui produisent un nombre important de certains antigènes normaux de l'organisme ou encore des antigènes qui sont mutés, altérés dans les cellules cancéreuses, puisque dans les cellules cancéreuses, il y a des altérations de gènes qui conduisent à la production donc, de versions altérées donc, de molécules normales de la cellule. Et ces molécules donc, sont considérées par l'organisme comme des molécules étrangères. Et dans ce cas-là, les défenses naturelles éliminent ce type de cellules. Alors donc, comment accroître la réponse immunitaire contre le cancer ? Eh bien, la première chose, c'est en accélérant et en stimulant la recherche fondamentale, c'est-à-dire la caractérisation de ces antigènes qui sont soit fortement représentés, soit altérés dans les cellules tumorales, parce que, eh bien, tout simplement, ces antigènes pourront servir de cible pour le développement d'une immunothérapie, hein, pour développer donc une réponse antitumorale. L'autre chose, c'est une modification chimique d'antigènes normaux pour les rendre plus immunogènes. Immunogènes, ça veut dire quoi ? Capables d'induire une réponse immunitaire. Et on pourrait donc utiliser ces antigènes modifiés pour vacciner et induire une réponse donc immunitaire contre les cellules cancéreuses. Les autres pistes, c'est d'utiliser des virus qui infectent les cellules cancéreuses, on en connaît, hein, qu'on modifie génétiquement pour leur faire produire ces fameux antigènes du cancer et activer donc la réponse immunitaire, c'est-à-dire que ces virus, en infectant les cellules cancéreuses, font produire en quantité ces antigènes cibles, hein, de la réponse immunitaire, et donc on va activer de cette façon la réponse immunitaire. On peut également utiliser ces virus. Je vous donne des voies qui sont toutes, bien sûr, exploitées. Ça donne lieu à de la recherche et du développement. On peut utiliser ces virus aussi pour faire produire par les cellules tumorales des cytokines, c'est-à-dire les fameux facteurs de croissance des lymphocytes qu'on a vus tout à l'heure, qui vont stimuler donc l'immunité. Donc, une possibilité également d'accroître la réponse immunitaire, c'est d'utiliser des adjuvants. De quoi s'agit-il ? Eh bien, ce sont des composants qui stimulent globalement la réponse immunitaire, plus ou moins sélectivement. J'ai cité quelques exemples ici. Et les cytokines, les interleukines, les interférons sont utilisés couramment dans certaines thérapeutiques anticancéreuses. Voilà, je vous cite ici, je ne vais pas entrer dans les détails, simplement pour vous montrer quelques exemples d'antigènes tumoraux qui sont ciblés pour la vaccination et qui donnent lieu donc au développement de protocoles de vaccination, d'essais cliniques de vaccination, qui sont pour certains développés jusqu'à la phase 3 que tu as évoquée tout à l'heure. Donc c'est bien d'avoir rappelé cette progression un peu des essais des médicaments. Donc vous voyez qu'il y a des effets des tests cliniques très avancés concernant donc ces différents antigènes. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais vous voyez que plus cette liste est loin d'être exhaustive. Ça vous montre un peu quelques exemples typiques d'antigènes qu'on cible actuellement pour essayer de développer donc une immunité contre le cancer, contre ces cancers qui sont indiqués ici. Juste pour un petit commentaire sur ce tableau, vous voyez qu'en fait toutes ces molécules, ces antigènes correspondent en fait eh bien, des molécules qui, par ailleurs, ont un rôle tout à fait biologique, naturel, tout à fait classique dans les tissus. C'est simplement parce qu'ils sont plus exprimés dans les cellules cancéreuses ou alors parce qu'ils sont altérés par une mutation du gène correspondant que, eh bien, ils deviennent, par le même coup, des antigènes immunogènes, donc des cellules cancéreuses. Voilà, alors les stratégies de vaccination antitumorale, eh bien, on va finir avec cela dans les quelques diapos qui me restent. La vaccination classique, on l'utilise, c'est-à-dire on va injecter des fragments de protéines antigéniques, celles que je viens de vous citer, de composants antigéniques, ou la protéine elle-même. Ces protéines proviennent du tissu cancéreux, quelquefois du malade lui-même. Ils sont préparés à partir du tissu du malade. Donc vous vous rendez compte de la lourdeur de ces protocoles, mais ils sont développés. On développe aussi des vaccins avec les cellules cancéreuses entières, en particulier, c'est le cas en particulier pour les leucémies, avec des cellules circulantes, par exemple, qu'on va réinjecter donc, chez le patient après les avoir purifiées, éventuellement un petit peu manipulées. pour augmenter l'expression de certains antigènes. Alors, les cellules peuvent provenir du patient lui-même, c'est des vaccins autologues dans ce cas-là, ou d'autres patients, des cellules qu'on a tuées, par exemple en les irradiant avec des rayonnements ionisants, des rayons X, et puis on réinjecte ces cellules. On parle dans ce cas-là donc d'un vaccin allogénique. Ensuite, d'autres techniques que je vais vous évoquer ici, le vaccin à cellules dendritiques et ou à lymphocytes, c'est-à-dire que on va prélever chez des patients, donc bien sûr qui ont le cancer, bien entendu, chez ce patient, on va prélever ces cellules, les isoler, les cultiver, les stimuler par les antigènes en culture pendant plusieurs semaines. On va également les stimuler avec des adjuvants, puis on va les réinjecter pour donner une immunité au patient contre son cancer et éviter donc la récidive. Alors par la même occasion, vous voyez qu'on peut vacciner dans ce cas-là à condition que la personne ait déjà eu un cancer. Donc c'est une vaccination thérapeutique et non pas prophylactique dans le cas d'espèce. Il y a une possibilité, la plus avancée sans doute, c'est des vaccins utilisant de l'ADN des gènes qui sont utilisés soit libres, soit transférés par des virus qui infectent des cellules cancéreuses. Et dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est faire produire en fait aux cellules dendritiques ces fameux antigènes qui vont déclencher la réponse immunitaire. Le but de la manœuvre, c'est d'éduquer en quelque sorte la cellule dendritique que vous avez vue tout à l'heure, de telle sorte qu'elle produise une grande quantité d'un antigène antitumoral. Et on va, avec ces cellules éduquées, on va donc induire la réponse anticancéreuse donc, dans l'organisme. Voilà, je vais finir en vous illustrant un petit peu ces stratégies de vaccination. L'exemple du DCVAX, développé par une firme américaine qui est indiqué. C'est un vaccin à cellules dendritiques. Donc voilà le protocole. C'est tout bête. C'est compliqué en termes. C'est un travail lourd, mais le principe est très simple. Le sang est prélevé chez le patient. Les cellules dendritiques sont préparées par plasmaphérèse, par des techniques de séparation. Elles sont ensuite cultivées au laboratoire et puis on va les modifier donc en les exposant à plusieurs types de molécules. L'antigène correspondant à la tumeur considérée, des cytokines, des adjuvants, etc. Cette phase ici peut durer plusieurs semaines pendant laquelle on va cultiver en quantité ces cellules et de telle sorte qu'on a un stock de cellules qui va permettre ensuite d'injecter, qui va permettre d'injecter de façon récurrente chez le patient, ces cellules éduquées en quelque sorte pour restituer, donc pour instaurer une réponse immunitaire donc, contre le cancer de ce patient. Voilà, autre type d'immunothérapie qui ressemble tout à fait à celle que je vous ai indiquée, c'est qu'on l'appelle immunothérapie adoptive, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller vacciner avec des cellules dendritiques, on vaccine avec des lymphocytes tueurs qui sont prélevés dans la tumeur elle-même, dans les ganglions, en particulier lymphatiques du patient, c'est ce qui est indiqué sur ce protocole. La tumeur est excisée, on fait un curage ganglionnaire pour récupérer donc les lymphocytes. Vous voyez que ces lymphocytes sont ensuite ensemencés, un petit peu comme on ensemence des petites graines, là, dans des boîtes de culture. On les fait multiplier pendant une longue durée, on peut les manipuler, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et on les réinjecte au patient, ces lymphocytes tueurs, donc ce qui va permettre d'empêcher le développement de nouvelles masses tumorales donc, chez le patient. Tout cela n'est pas du mythe, c'est de la réalité, mais c'est de la réalité en cours de développement. Puis la toute dernière approche donc, que je vais vous citer, c'est un petit film avec lequel je vais terminer ma présentation, qui va vous montrer comment on peut utiliser un virus vecteur, en fait, et ça c'est développé par Sanofi Aventis, c'est ce qu'ils appellent Alvac, le nom de guerre c'est Alvac, et c'est encore une fois une façon d'éduquer les cellules dendritiques, mais par une manipulation génétique que vous allez voir tout de suite, c'est-à-dire en utilisant un virus qui va permettre de transformer donc, ces cellules dendritiques. Alors c'est un petit film, je vais m'éloigner un peu parce qu'avec ma presbytie, je ne vois pas toujours tout, je me mets par là. Donc, mais là, je vais peut-être en gêner certains, donc je vais me mettre plutôt sur le côté. Il faut respecter aussi l'auditoire. Voilà, donc les cellules cancéreuses, elles sont là, vous le voyez. Eh bien, ce que va vous montrer la première partie de ce film, c'est que, on va récapituler en même temps les étapes qu'on a vues tout à l'heure, c'est que quand un lymphocyte tueur arrive au voisinage de la masse tumorale, malheureusement, sauf s'il y a eu une intervention exogène, généralement, il n'est pas efficace. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour les raisons que je vous ai dites. Énergie, vous avez la masse tumorale qui empêche en fait le lymphocyte tueur d'agir comme il faut. Alors l'astuce, c'est d'utiliser un virus, en général c'est des adénovirus, dans lequel on va introduire un gène qui code pour un antigène de cellules tumorales. En vert ici, vous avez ce gène qui code pour la protéine antigénique de cancer, hein, correspondant au cancer qu'on veut traiter. Bien, ce virus bidouillé, bricolé, on va l'injecter donc chez le patient. Et bien entendu, il va diffuser dans le sang, dans les tissus, dans tout l'organisme. Et il va gagner, bien entendu, les ganglions. Et en particulier, eh bien, ces virus, eh bien, ils vont être phagocytés, hein, ils vont être engouffrés par, ici, vous reconnaissez les cellules dendritiques. Hein. Et ces cellules dendritiques, qu'est-ce qu'elles vont faire? Eh bien, tout simplement, elles vont exprimer le gène que vous avez introduit par manipulation génétique. Et ces cellules dendritiques, parce qu'elles ont été infectées par le virus, donc le virus leur a transmis ce gène, et ce gène va conduire à la production de l'antigène, de la protéine, qui va être exprimée à la surface des cellules dendritiques, comme vous le voyez là-haut, par des molécules qu'on appelle des molécules du complexe majeur d'histocompatibilité en jaune. Voilà. Donc vous voyez que les cellules dendritiques ont été éduquées par manipulation génétique. Elles présentent sur la surface eh bien, ces fameux antigènes à la réponse immunitaire. Et le reste de l'histoire, vous la connaissez bien. Donc vous voyez que ces cellules dendritiques vont stimuler donc des lymphocytes, comme ceci par exemple, par le biais de différents récepteurs, mais surtout par le biais de cette protéine antigénique antitumorale hein, qui est présentée ici. D'accord ? Voilà, et bien ces cellules donc, qui ont ici, c'est des lymphocytes CD4, vont proliférer et émettre ces cytokines, ces petits trucs verts là, qui sont un peu partout. Et bien, ce sont les fameuses cytokines qui vont induire donc, l'activation du système immunitaire et en particulier des cellules tueuses et des lymphocytes B. Hein. Donc ces lymphocytes CD4 vont induire donc, ces cellules tueuses. Et là, eh bien, dans ce cas-là, eh bien, vous allez avoir des cellules tueuses qui vont être capables de reconnaître la tumeur parce qu'elles ont, eh bien, elles sont activées pour reconnaître la tumeur et elles vont pouvoir la détruire par le biais de la production de molécules qui tuent donc la masse tumorale. Hein. Bien, les cellules dendritiques vont aussi stimuler donc, d'autres types cellulaires par le biais ici des cellules CD4 qui produisent des cytokines qui sont ce que l'on appelle les lymphocytes B, les plasmocytes activés, qui produisent des anticorps. Ces anticorps se fixent donc sur la masse tumorale et voilà un deuxième principe de destruction donc, de la tumeur. Alors tout ce que je vous raconte là, bien sûr, a été testé, y compris au niveau clinique, et ces tests sont concluants, je vous dis, dans le cadre des études cliniques en cours, hein, qui sont aujourd'hui développées donc, jusqu'à la phase 3. D'accord ? Voilà, donc je vais tout simplement conclure maintenant. Eh bien, oui. D'abord, pour vous rappeler un petit peu eh bien, quelques points importants de ce que je vous ai raconté. Vous voyez donc que des adjuvants comme le BCG, des cytokines, stimulent efficacement la réponse antitumorale. Et ce concept intéressant eh bien, doit être appliqué à de nouvelles molécules, et c'est en cours, effectivement. Hein. Les vaccins prophylactiques ne sont pas un mythe. Ils sont dirigés contre des composants viraux qui causent des virus qui causent des cancers. Et cette réalité doit aussi s'appliquer à d'autres cancers donc, qui sont associés à des virus. Et vous avez vu dans la liste que je vous ai donnée tout à l'heure qu'il y a d'autres cancers causés par des virus que ceux pour lesquels on développe donc, les vaccins actuels. Et pour les autres cancers, les plus nombreux sont ceux non viraux dépendants. Eh bien, les vaccins prophylactiques qui protègent contre le cancer, les vaccins thérapeutiques efficaces contre la récidive des cancers, est-ce qu'ils sont envisageables dans un proche futur? Je vous ai dit qu'ils sont en développement, je vous ai dit quels étaient les protocoles. Eh bien, c'est justement ce que je vous propose éventuellement de discuter juste après. Il me reste juste eh bien, à conclure en vous disant merci de votre attention et je crois que maintenant on est prêt pour répondre donc à vos questions. Merci encore.
Voilà, vous prenez place. Donc, merci à M. Papot et à M. Muller pour leurs deux interventions. Et puis maintenant, comme à notre habitude, nous allons vous proposer de poser des questions. Donc, n'hésitez pas. Et donc, nos deux intervenants y répondront avec plaisir. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions. Non, pas une première question. Merci, monsieur. Donc, je m'excuse parce qu'on va être obligé d'utiliser le micro parce qu'on enregistre la soirée.
Oui, merci bien. Bon, c'est juste une question qui m'est venue à la lumière de ce qui a été exposé par les deux orateurs. Dans la première partie, Sébastien Popeau a parlé du concept d'adepte et, des conséquences, par exemple, le fait de déclencher une réaction immunitaire qui a fait que le concept n'a pas très bien marché. Et ensuite, on a vu effectivement que ces réactions immunitaires pouvaient être utilisées dans des vaccins, etc. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas, ou est-ce qu'il n'y a pas des recherches qui vont dans le sens de développer le concept d'adepte lié à une réaction immunitaire en parallèle pour augmenter l'efficacité? Voilà.
Ça marche là?
Ouais. Oui.
En fait, la réponse immunitaire qui était liée à l'introduction d'un conjugué enzyme anticorps dans le cas de l'adepte qui a été développé ici, c'est parce que l'enzyme qui était utilisée était en fait une enzyme exogène, c'est la carboxypeptidase G2, et en fait c'est elle qui générait la réponse immunitaire. Il y a d'autres concepts adeptes qui ont été développés, notamment avec des enzymes humaines comme la bêta-glucuronidase, et dans ce cas-là, il n'y a pas de réponse immunitaire de l'organisme vis-à-vis en fait du conjugué enzyme anticorps. Le problème, c'est quand on utilise une enzyme humaine, bien évidemment, ça veut dire que l'enzyme est aussi présente ailleurs dans l'organisme, et dans ce cas-là, on risque d'avoir une activation non sélective en fait de la prodrogue d'une manière anarchique. Le problème, c'est ça. Maintenant, effectivement, si on arrive à minimiser la réponse immunitaire avec un anticorps monoclonal, par exemple, sur laquelle on a fixé une enzyme, donc qui n'induira pas de réponse immunitaire, évidemment, là, on va avoir un concept adepte plus efficace. Il y a quand même un petit problème au niveau du concept adepte, c'est que lorsqu'on introduit un conjugué enzyme anticorps dans l'organisme, certes, il y en a une partie qui va se fixer sur les antigènes des cellules tumorales, mais il faut attendre ce qu'on appelle la clairance des conjugués enzyme anticorps qui sont présents dans le sang, parce que sinon, évidemment, il y a activation de la prodrogue dans le sang aussi. Et le problème, c'est qu'en général, ce protocole de clairance en fait prend énormément de temps, et la concentration de conjuguer enzyme anticorps restant fixé au niveau des antigènes, parce que c'est une liaison supramoléculaire, hein, donc c'est pas une liaison permanente, diminue considérablement avec le temps, et on arrive à trouver des fenêtres thérapeutiques avec des quantités d'enzymes qui sont encore aujourd'hui pas suffisantes.
D'accord, merci.
Une question. Nous sommes nombreux, mais l'auditoire est silencieux. Je ne sais pas, je me tourne vers les intervenants. Non, pas de compliments, monsieur, non plus. Écoutez, la soirée va donc s'écourter. S'il y a pas de... Voilà, vous avez tout, beaucoup d'informations. Je pense que donc, nos intervenants ont été très, très complets. Je vous remercie encore. Et puis, on va se quitter. Alors, bonne fin de soirée à tous. Voilà, à bientôt. Donc, la soirée du cerveau, la semaine prochaine, pour ceux qui sont intéressés également. Rendez-vous, donc, à bientôt.